Chapitre 6. C'était un homme intelligent que Simon Belloc. Cependant, malgré cette intelligence qui était vive, malgré sa volonté qui était tenace, il n'avait jamais pu apprendre à écrire. Il était arrivé, à force de persévérance et d'application, à signer son nom, et même convenablement, en grand caractère, qui ne manquait pas de tournure. Il était arrivé aussi à tracer ses chiffres, de manière à noter les mesures qu'il prenait ou que les architectes lui donnaient, et à faire quelques opérations d'arithmétique. Mais écrire une lettre, écrire un simple mot, si court qu'il fût, il ne l'avait jamais pu. Son caractère insoumis n'avait pas su se plier à la discipline de l'école, et comme, avec cela, il s'était montré dispos au travail manuel, prêt à tout et toujours, la pauvreté de ses parents avait été faible. « Puisqu'il veut travailler de ses mains, ce garçon, il faut le laisser faire. Son gain sera le bienvenu à la maison. » Pendant ses années de jeunesse, il n'avait pas souffert de son ignorance. Ceux avec qui il était en relation n'en savaient guère plus que lui. On ne traitait pas les affaires par correspondance, il n'y avait pas d'ordres écrits à recevoir ou à donner, on n'avait ni carnet ni agenda. Même quand il avait commencé le métier d'entrepreneur de bâtisse, il avait pu se passer de l'écriture. Quand il avait des mesures un peu compliquées à prendre et qui pouvaient se brouiller dans sa tête, si solide qu'elle fût, il inscrivait sur un bout de planche, ramassé de ci de là, les chiffres qui pouvaient lui servir de point de repère, et alors on le voyait passer par les rues du pays, les poches pleines de bouts de bois, qui étaient ses notes, au milieu desquelles il ne faisait jamais de confusion en distribuant le travail à ses ouvriers. Mais il était arrivé un jour où les bouts de planche n'avaient plus été suffisants, où ceux à qui il avait affaire ne se contentaient pas de ses manières primitives et où il devait se montrer à la hauteur de sa fortune. C'était à ce moment qu'il avait voulu commencer à apprendre à signer son nom et aussi à écrire. Cela ne devait pas être bien difficile, lui semblait-il. Il avait bien appris la construction, dont il ne savait pas le premier mot en arrivant à Saint-Maclou, et aussi le commerce des bois, de même celui des charbons, de même celui des vins et alcools. Pourquoi, avec son intelligence dont il était sûr, n'apprendrait-il pas à écrire? Pourquoi, avec sa volonté, ne ferait-il pas ce que faisaient bien des gamins paresseux et distraits? La seule difficulté qu'il voyait était dans le moyen d'apprendre, puisque c'était tout seul qu'il devait travailler. En effet, dans la position qu'il avait déjà acquise, avec l'importance qu'il prenait et qu'on lui donnait, il ne pouvait pas faire venir l'instituteur chez lui et lui demander des leçons d'écriture. Que n'eût-on pas dit dans le pays si on avait su que Belloc, qu'on croyait être un homme si fort et à qui on reconnaissait tant de mérite, parce qu'il avait réussi tout ce qu'il avait entrepris, ne savait même pas signer son nom? Du coup, il eût été perdu et sans retour possible, précipité des hauteurs où il était en train de monter. À qui eût-il inspiré confiance? À qui eût-il fait peur? Sa grande force. Déjà, à ce moment, il était président de la fanfare, commandant des pompiers. Eût-il pu espérer devenir conseiller municipal et maire comme il voulait l'être un jour? Ce n'avait été que par des miracles d'adresse et de diplomatie qu'il avait pu cacher son ignorance. Il n'allait donc pas l'avouer, même à un seul, si cher qu'il payât la discrétion de celui-là. Après avoir acheté des exemples d'écriture, il s'était donc mis à l'étude, tout seul, le soir, sa journée finie, porte close. Ce n'était que du dessin, il en viendrait bien à bout. Et, de fait, il en était venu à bout. Sa main, sa lourde main, habituée au mètre ou au fouet, s'était assouplie pour tenir la plume. Il en avait cassé bien des plumes, il en avait crevé bien des feuilles de papier, il en avait laissé tomber bien des papiers. Mais enfin, il était arrivé à tracer assez couramment les 7 lettres de son nom. Quel affranchissement ! Combien avait-il perdu d'argent parce qu'il avait été obligé, pour ne pas échanger un bon écrit, de dire à des gens dont il se défiait « Entre honnêtes gens, la parole suffit. Plus de ses ruses, plus de ses détours. » Tout de suite, il s'était appliqué à dessiner les mots indispensables dans le commerce « pour acquis »,« fait double »,« bon pour »,« approuvait l'écriture. Et cela, il l'avait réussi, comme il avait déjà réussi sa signature. C'était beaucoup pour lui, mais ce n'était pas tout. Un simple ou un modeste qui aurait avoué son ignorance aurait pu se contenter de cela, mais justement, il avait toutes les ambitions, celles de la fortune aussi bien que celles de la position sociale. Et il fallait qu'il fût l'homme de la haute position qu'il visait, ou tout au moins qu'il parût être cet homme. Il s'était donc mis à étudier l'écriture courageusement. Chaque soir en rentrant, qu'il fût ou ne fût pas fatigué, il s'enfermait, et sûr de n'être pas surpris, pendant des heures, il labourait son papier, que le lendemain, il faisait disparaître avec soin. Qu'eût-on pensé, qu'eût-on dit de lui, si l'on avait trouvé un de ses devoirs d'écolier? Mais ce n'est pas tout de copier un mot, il faut encore savoir comment écrire ce mot quand on ne le copie plus. Ce fut alors que se présenta devant lui une autre étude plus difficile et plus longue, celle de l'orthographe. Il entreprit. Ayant acheté une grammaire, il se mit à l'apprendre. Partout où il était seul et où il avait un moment de liberté, ne fût-ce que quelques minutes, il apprenait sa leçon ou bien il se la répétait. Alors, par les chemins, alors qu'on le croisait, ou bien dans les voitures, quand on était assis près de lui, on le voyait remuer les lèvres dans une attitude recueillie et absorbée. « Nous avons rencontré Belloc, se racontait-on. Soyez sûr qu'il prépare quelque grosse affaire nouvelle. Il en a déjà, pourtant, bien assez sur les bras, de quoi occuper 10 hommes. » La grosse affaire qu'il préparait ainsi, c'était l'accord de l'adjectif avec le substantif, ou bien la formation du pluriel dans les noms en al, ou autre loi de cette importance. C'est que pour lui, cette importance était capitale. Il voulait être un monsieur, un monsieur, comme il disait, et les monsieurs savent l'orthographe. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Son ambition, en entrant dans la vie, avait été de gagner de l'argent. L'argent gagné, il avait voulu plus et mieux. La position sociale, les honneurs, le rang. Il était de ceux qui, partant du dernier barreau de l'échelle, ne visent point tout de suite le premier, mais qui, après avoir atteint le second, montent au troisième, puis au quatrième, sans s'arrêter jamais. Pourquoi n'arriverait-il pas au plus haut? Ne se voyait-il pas plus intelligent et plus fort que ceux qui occupaient les situations qu'il voulait? Plus intelligent que le maire, qu'il avait 100 fois roulé? Plus fort que le conseiller général qui n'agissait que par lui? Pourquoi ne seraient-ils pas ce qu'ils étaient? Que lui manquait-il pour cela? Une seule chose, l'instruction. Il l'acquérait. Cela ne devait pas être plus difficile que d'acquérir la fortune. Mais il était arrivé au contraire que cela était plus difficile. Après un an de travail acharné, il était moins avancé qu'en commençant. Il n'avait acquis qu'une chose, le sentiment de son ignorance et de son impuissance. Maintenant, il savait par expérience et non par une intuition plus ou moins vague qu'il ne savait pas, et ce qui était plus dur encore, il comprenait qu'il ne saurait jamais. Plus il avait étudié, moins il avait appris. Tout se brouillait dans sa cervelle troublée, et au milieu des règles et des exceptions, il se perdait sans qu'il lui fût possible de se retrouver. Longtemps, il avait lutté avant d'admettre cela. Mais à la fin, il avait dû s'avouer vaincu. Il ne pouvait pas, il ne pourrait jamais apprendre l'orthographe. Alors, pour la première fois de sa vie, il avait renoncé à poursuivre une chose entreprise. Mais pour cela, cependant, il n'avait pas renoncé à ses ambitieuses visées. Il serait quand même un monsieur, et puisqu'il ne pouvait pas mettre l'orthographe, il n'écrirait jamais. Un autre écrirait pour lui. Jamais on ne rirait de son écriture. Cela décidé, il avait appelé près de lui son cousin, qui lui avait servi de commis et de secrétaire. Puis, quand il y avait eu rupture entre eux, il l'avait remplacé par 2 commis, un pour les travaux de construction et pour le service des voitures, Paulin Moreau. Un autre pour le commerce de bois, des charbons, des ardoises et des liquides, appelé Victor de Dessus-la-Mare, sans compter le secrétaire de la mairie chargé des affaires administratives. Grâce à sa mémoire et à l'ordre méthodique qu'il savait mettre dans ses nombreuses affaires, les choses auraient marché à souhait s'il avait eu confiance en ses commis et s'il avait consenti à se livrer à eux franchement. Mais justement, cela lui était impossible. Jamais homme n'avait été moins confiant que lui, jamais moins franc. Il se serait cru perdu s'il s'était livré. Pour que ses commis ne connussent point ses affaires et pour n'être point trahi par eux, il employait toutes sortes de moyens détournés qui faisaient honneur à son esprit de ruse, mais qui, par leurs complications, n'étaient pas toujours très pratiques. C'était ainsi que, pour une affaire grave intéressant la mairie, c'était Paulin Moreau, le commis architecte, qui était chargé de la correspondance confidentielle, tandis que, pour une affaire importante se rapportant à la construction, c'était Victor de Dessus-la-Mare, le commis du commerce des charbons et des liquides, qui l'a traité. Par ce procédé, chacun d'eux restait dans l'indécision, puisque celui qui connaissait le commencement d'une affaire n'en connaissait jamais la conclusion. Et, comme avec cela, il avait soin de les exciter les uns contre les autres, de manière à ce qu'ils ne fussent pas bien ensemble, il évitait les confidences aussi bien que les indiscrétions. Cependant, malgré toutes ses précautions, il ne se trouvait pas encore rassuré. Soupçonneux, défiant comme il était, il avait toujours peur. Et c'était cette peur, c'était cette défiance qui lui avait donné l'idée d'employer Marichette. Elle ne connaissait personne à Saint-Maclou, elle n'avait aucun intérêt dans le pays, elle ne savait rien de ses affaires. Avec elle, une indiscrétion serait moins à craindre qu'avec tout autre. D'ailleurs, il la dominerait par la crainte autant que par la reconnaissance. Ne lui devrait-elle pas tout ?